Radio Kapi. Oh,
Kapi. Grâce Hamzati Massanzi à la présentation de votre journal.
Au sommaire de ce journal, des groupes armés locaux s'affrontent régulièrement dans les secteurs de Bapere et territoire de Lubero Nord Kivu jusqu'à semer la confusion totale. Pour le moment, il est difficile de reconnaître les vrais ennemis de la République en cette période de guerre dans cette région, alerte l'administrateur du territoire. Face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, l'opposant Martin Fayulu appelle à la mobilisation de tous les Congolais et à la tenue d'un dialogue inclusif de la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. Dans ce journal, nous parlons du programme de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star Est à Nitouri avec notre invité Steve Singida qui en est le coordonnateur. Bonjour à tous. L'administrateur du territoire de Lubero Nord qui vous déplore la confusion entretenue par les groupes armés locaux dans les secteurs de Bapere. Selon le colonel Alain Kiwewa qui l'a dit à Radio Kapi, ces groupes armés s'attaquent entre eux et sèment la confusion au point qu'il est devenu difficile d'identifier les vrais ennemis en cette période de guerre. L'administrateur de Lubero met en garde les leaders de ces groupes armés qui, dit-il, devront tôt ou tard rendre des comptes devant la justice. Le colonel Alain Kiwewa est au micro d'André Kiting.
Actuellement, il y a une certaine confusion et des fois c'est difficile même d'établir qui est l'ennemi au niveau du secteur de Bapere. Parce qu'il y a des affrontements entre les groupes armés, il y a des affrontements entre les groupes armés et un autre groupe qu'on appelle actuellement Kiandaira. Donc vous voyez que ce sont tous des Congolais et ils prétendent s'appeler Wazalendo, donc compatriotes. Ce que je demande à ces groupes armés, à partir de maintenant, de cesser de s'attaquer entre eux. D'ailleurs, c'est la cause même de 3 jours mortes décrétés par la société civile de Bapere. C'est pour demander le départ de tous les groupes armés dans le secteur de Bapere, qui ne croient pas que cette histoire-là des groupes armés va rester éternelle. Ça ne restera jamais éternel. Un jour, ça prendra fin. Et tout le monde répondra de ses actes. Tous ces leaders-là doivent faire très attention. Ils seront poursuivis. Si pas aujourd'hui, demain ou le lendemain, ils seront tous poursuivis.
Rappelons que la société civile du secteur de Bapere a décrété jeudi dernier 3 jours sans activité pour dénoncer ce qu'elle qualifie de léthargie de l'armée face à la persistance de l'insécurité dans plusieurs localités de cette région. Restons au nord Kivu, dans le territoire de Beni, l'arrêté du gouverneur des provinces établissant un lotissement provisoire de 550 hectares à Kassindi Lubiria a déclenché une série de réactions. L'Association congolaise pour la défense des droits de l'homme, ACDH, dénonce l'illégalité de cet arrêté qui, selon cette ONG, enfreint la législation congolaise en vigueur. De son côté, la société civile locale du groupement de Basongora exprime des réserves face à cette décision. André Kitenge.
Le moins que l'on puisse dire est que cet arrêté, qui vise à résoudre le conflit de délimitation entre les communautés riveraines de la cité frontalière de Kassindi et le parc national de Virunga, ne fait pas l'unanimité. Selon Maître Olivier Ndeolé, le coordonnateur de la CDH, cet arrêté ignore les procédures requises pour modifier le statut d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est un arrêté hautement illégal qui viole toute la législation congolaise et même les accords par rapport à la protection du parc national de Virunga, qui est un site du patrimoine mondial, un site Ramsar, le gouverneur a énervé tous ces textes-là.
La société civile du groupement de Basongora, représentée par son coordonnateur Denis Kalenga, regrette que la décision ait été prise sans consultation de la population locale.
C'est une décision qui a été prise sans pour autant faire partie la population dans cette décision. Nous ne disons pas que le gouverneur devait contacter toute la population, mais les couches concernées devaient être contactées en fond de voir l'intérêt ou l'avantage que bénéficie la population.
Dans un communiqué publié le jeudi 22 août, la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandumbo Lambongo, appelle le gouverneur militaire à retirer cet arrêté manifestement illégal qui empiète sur les compétences du ministre congolais chargé des Affaires foncières. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et au sud Kivu voisin, les barrières payantes perdurent sur la majeure partie du territoire des Mwenga. L'arrêté du ministre provincial de l'Intérieur interdisant aux agents de l'ordre et des services de sécurité à percevoir des frais illégaux auprès des passants n'est pas suivi des faits 10 jours après son entrée en vigueur. Ainsi, le président du bureau de la société civile territoriale de Mwenga appelle l'administrateur du territoire à faire respecter cet arrêté de la hiérarchie. Lungele Itebo précise que des postes de contrôle de routine sont malheureusement transformés en barrières payantes des jours comme des nuits. Il est dit au micro de Jean Kassami.
Il y a des barrières 24 heures sur 24 heures à Kamikire, Mambalu, Tukenga, Butwa, Nyabongo, Mizulo, Kalambi Ulindi, Matebo, Pont Kadubo, Lubiala, Elila, Mubale, Eakabeba, Ngombe, Kasika, Kalole Mwenga, Buziba, Kitutu, Kangubanguba, Elila, Mapale, Kilunga et la liste continue. Frais exigés 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs et 5000 francs pour le Bazalendo. Trois barrières érigées à Nabalume, groupement de Bizalogul, Kitutu Regeza. Et jusqu'à présent, ces barrières existent. La population du territoire de Mwenga est fatiguée de ces actes d'extorsion. Cette pratique accentue la pauvreté.
Parlons de cet appel de l'opposant Martin Fayulu à la cohésion nationale et à un dialogue de toutes les filles et de tous les fils de la RDC autour des chefs spirituels. Le président de l'ECID l'a dit, c'est samedi depuis les États-Unis où il séjourne. Il rappelle qu'il est temps de s'unir comme un seul homme pour soutenir l'intégrité territoriale et lutter contre l'agression rwandaise. Karine Toperidassi nous en parle.
Depuis les États-Unis, où il a participé au congrès du Parti démocrate, l'opposant Martin Fayulu a plaidé pour la tenue d'un dialogue inclusif de la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la RDC, alors que le pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux samedi 24 août, Martin Fayulu a insisté sur l'importance de l'unité nationale. Il explique qu'aujourd'hui, la seule solution pour les Congolais et pour toutes les parties prenantes, c'est de se mettre autour d'une même table comme un seul homme afin de contre-attaquer le Rwanda avec un esprit d'engagement et un esprit patriotique. Martin Fayulu se dit exaspéré de voir d'autres nations progresser et prospérer alors que la RDC regresse.
Merci à vous, Karine Topé. Pendant ce temps, le ministère congolais des Affaires étrangères condamne fermement l'incident survenu vendredi à Kinshasa dans la résidence d'un diplomate français accrédité officiellement en RDC. Selon des sources diplomatiques ici à Kinshasa, il s'agissait d'une tentative d'expulsion d'un diplomate français par une famille qui se prévaut d'être propriétaire d'une maison appartenant à l'ambassade de France. D'autres détails avec vous, Alain Hirogomoshinge.
Le diplomate était retenu de force dans la villa, privé de ses mouvements pendant un long moment. Le ministère des Affaires étrangères condamne fermement cet acte de violence et une enquête rigoureuse est en cours afin d'identifier et de poursuivre les responsables de ces actes, a annoncé le cabinet de la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner. La sécurité des diplomates est garantie en tout lieu et en toutes circonstances, a insisté le ministère. L'engagement du ministère envers le respect des conventions diplomatiques est et demeure assurée par des mesures nécessaires de prévention de tels incidents, a assuré le ministère. Le protocole d'État est déjà déployé et apporte son soutien avec toutes les dispositions d'usage, conclut le communiqué.
Autre chose, le ministre du Commerce extérieur confirme les informations préoccupantes faisant état d'une présence de la farine de maïs en provenance de la Zambie contaminée par la flatoxine, substance toxique présentant un danger pour la santé humaine et animale. Julien Paluku Kaongya l'a dit dans un communiqué publié ce dimanche. Les mesures préventives prises pour préserver la population du danger sont notamment les sanctions exemplaires de tout cas d'importation frauduleuse sur les territoires nationaux de la farine subvisée allant de la saisie à la destruction aux frais du contrevenant. Le ministre du Commerce extérieur réitère son appel au respect de la réglementation sur la circulation des marchandises et invite une fois de plus la population congolaise à bannir la fraude sous toutes ses formes afin de préserver la nation des drames qui en découleraient. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Selon le ministère du Commerce extérieur, les différentes marques de la farine contaminée à l'aflatoxine sont les suivantes. Africa Milling, Roller Meal and Breakfast, Farfeed Super Dog Meal, Continental Milling, Shabko Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Parmi les autres mesures annoncées par le ministère du Commerce extérieur, il y a l'interdiction d'entrée sur le territoire national de la farine de maïs, des marques de fabrique et des commerces incriminés, l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation, la commercialisation et la distribution de la farine de maïs des marques précitées, le retraçage de l'existence de ces produits et leur retrait dans le circuit du commerce national. Le secrétaire général au commerce extérieur, le secrétaire général à l'économie, le directeur général des douanes et accises, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le directeur national de l'hygiène aux frontières, le coordonnateur du SACAV ainsi que le commissaire général de la police congolaise sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ces mesures, conclut le communiqué.
Jacques-Yves Moulima Aouta. De son côté, le ministre du portefeuille promet de proposer au gouvernement des alternatives pertinentes en vue de relever les défis qui freinent la relance de la production du ciment par la cimenterie nationale CINAT. Jean-Lucien Boussa l'a déclaré ce samedi à l'occasion de la visite à Kimpese au Congo central de la CINAT. Il affirme que le temps est arrivé pour relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. De son côté, se confiant à la presse, le directeur général de la CINAT s'est réjoui de trouver un interlocuteur valable auprès du gouvernement congolais. Flamand Ilagné plaide pour le redressement de la CINAT pour que la RDC s'en serve pour les travaux de reconstruction des ponts, des routes et autres édifices. On écoute tour à tour le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et le DG de la CINAT, Flamand Ilagné, dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
La République démocratique du Congo a sa société qui sait produire et offrir du ciment. Vous savez que tous les pays voisins ont développé l'industrie du ciment pour contenir la demande intérieure à l'intérieur de son pays et pour éviter de dépendre de l'extérieur pour ses produits stratégiques. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé, que je soutiens par ailleurs, n'est-ce pas? Il faut absolument la relever. Pour utiliser le mot approprié, la redresser.
Il est à retenir que cette visite nous va tout droit au cœur. C'est tout ce que nous voulions depuis des années. Et aujourd'hui, nous avons trouvé l'interlocuteur valable pour défendre la cause de la CINAT auprès du gouvernement et de la présidente de la République. Il faut savoir que tout développement, à part l'acier, c'est le ciment.
Dans l'actualité, sachez aussi que le gouvernement congolais vient de débloquer 70 millions de dollars pour appuyer le plan minimum de relance de la société minière de Bakwangamiba. Une décision prise au Conseil des ministres de vendredi et annoncée ce samedi à Mbujimayi au Kasai Oriental par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du premier forum économique sino-congolais sur les mines, économie et coopération. Kizito Pakabomba s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
L'espoir est bien réel. La MIBA, autrefois fleuron du secteur minier congolais, a connu des années difficiles. Cependant, je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui une très grande nouvelle. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à la cité de l'Union africaine, le gouvernement, conduit par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Tuluka Suminwa, ce gouvernement, qui est l'actionnaire majoritaire de la MIBA, a pris une décision importante de débloquer 70 millions de dollars pour la relance de la MIBA. Ce financement marque le début d'une nouvelle ère pour la MIBA, qui pourra non seulement rétablir sa production, mais aussi redevenir un employeur majeur dans la région.
Actualité internationale.
Le Mpox continue de se propager en Côte d'Ivoire. À ce jour, 32 cas ont été confirmés, dont un décès. Des infections recensées à Abidjan et dans 14 autres districts sanitaires à l'intérieur du pays. Mais la situation est sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie pour éradiquer la maladie, assure le ministre ivoirien de la Santé lors d'une conférence de presse ce samedi.
L'invité.
Des leaders communautaires du territoire des Djouguani-Touri sont sensibilisés depuis vendredi pour apporter leur contribution dans l'exécution du programme de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star Est, un programme qui bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale et qui vise à améliorer l'accès aux infrastructures sociales de base, la résilience communautaire et la gouvernance locale. Quelle est la particularité de ce programme? Martial Kiza Biamungu s'entretient avec Steve Singida, le coordonnateur des Star Est à Nitori.
Steve Singida, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Martial.
Pour commencer, c'est quoi le programme STAR Est?
Le projet stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC est un projet du gouvernement congolais conçu de par les besoins de ces provinces bénéficiaires et qui, ces jours, vient appuyer les efforts des gouvernements provinciaux dans l'élan de la stabilisation, de la pacification, mais aussi du relèvement de leurs communautés longtemps meurtries.
Alors pour la province de l'Ituri, c'est quoi les chronogrammes de ces projets et quels sont les territoires concernés?
Donc le projet STAR Est vient en appui de par les 5 composantes qui les constituent, notamment la première composante sur la stabilisation qui permettra au projet d'aider les entités territoriales, le chefferie secteur, à disposer des plans locaux de développement, mais aussi à construire des infrastructures socio-communautaires de base. Des écoles, des centres de santé, des addictions d'eau et bien d'autres infrastructures. Dans sa composante 2 sur la réintégration communautaire, le projet STAR Est va devoir lancer des travaux en timon, la réhabilitation des routes de desserte agricole sur plus ou moins 1125 km sur l'ensemble des 3 provinces, ce qui veut dire que l'Ituri pourra bénéficier de plus ou moins 375 km de routes. À ce jour pour l'année 2024, notre plan de travail annuel prévoit des axes routiers. L'axe en territoire d'Irumu, allant de Kombokabo, en passant par Songolo, Bavi, pour chiter sur Tchekele, sur une linéaire de plus ou moins 49 km. Et le deuxième axe est celui de Katoto, Baranganza, Masumbuko, Blukwa, sur plus ou moins 50 km. Qui vont bénéficier des travaux en procédure d'urgence avant décembre de cette année.
Alors rapidement, pourquoi avoir choisi les axes routiers pour ce qui concerne les territoires de Ndjougou, en allant des centrales Solenyama, Katoto, Paranganza, Masumbuko pour chiter sur Blukwa? Les conditions sécuritaires sont-elles favorables pour l'exécution de ces travaux?
En fait, le gouvernement provincial sous le gouverneur Son Excellence Johnny Luboya Nkashama a abattu un travail remarquable dans cette zone. Aujourd'hui, l'axe Baema Nord, Walendu Tati, Baema Baguru, allant jusque sur Walendu Piti, ces zones que tu as citées, ce sont des zones où l'élan de stabilisation a connu des grandes avancées. Aujourd'hui, ces populations se fréquentent, cet axe routier est réouvert. Aujourd'hui, les populations peuvent partir de Blukwa jusqu'à Bunia et nous avons voulu mettre à profit les efforts du gouvernement provincial à rendre cette route comme l'un des axes qui pourra désenclaver toutes ces entités jusqu'à arriver à Walendu Piti, parce que cette route va jusqu'à Kwandroma et l'ouvrir jusqu'à Blukwa permet l'accessibilité aux partenaires humanitaires qui travaillent dans la zone, permet l'évacuation de tous les produits agricoles que la zone commence déjà à améliorer, à produire, mais aussi permettre aux populations riveraines de bénéficier de revenus supplémentaires en termes d'emploi en ayant pris part dans ces travaux en timon, lesquels travaux pourra employer 50% des femmes.
Alors Steve Singida, certains vous rétroqueront que des programmes similaires sont déjà en œuvre à Ituri, qui portent aussi bien sûr les mêmes domaines d'intervention, par exemple Starec, quelle est la particularité aussi des Star Est?
En fait, le projet Star Est a toute sa particularité du fait que c'est pour la première fois que la Banque mondiale expérimente une approche décentralisée de mise en œuvre de projets qu'il finance. Ça veut dire que ce projet n'a pas un ancrage à Kinshasa. Le projet Star Est est un projet beaucoup plus global. Starec était un projet spécifique sur le désarmement, alors que nous, stabilisation et relèvement, nous allons financer le PDDRCS. Nous venons de signer un protocole d'accord à Goma le 6 août passé, où le PDDRCS va bénéficier de l'appui du projet Star Est en termes de financement pour son fonctionnement en tant que structure, mais aussi le projet Star Est prendra en charge les ex-combattants qui sortiront des groupes armés à travers le processus DDRCS et que ces ex-combattants trouveront le projet en phase d'exécution dans leur communauté et seront pris en charge pour les débits de réinsertion et leur intégration. Voilà le caractère beaucoup plus global du projet Star Est qui non seulement va appuyer les institutions provinciales, va appuyer nos communautés, va développer des infrastructures routières, des infrastructures socio-communautaires de base, mais aussi va permettre au PDDRCS de matérialiser son plan opérationnel.
Steve Singida, merci.
Je vous en prie.
Notre invité, le coordonnateur du Star Est, s'entretenait avec Martial Kiza Biamungu depuis la ville de Bunia en Ituri. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rong, Pierre Diassino à la mise en onde et la présentation de Grâce Amzati. Merci.